Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile d'aujourd'hui met devant nos yeux la belle comparaison du bon pasteur que notre Seigneur s'applique à lui-même. Cette image était très familière aux habitants de la Palestine, non seulement parce qu'elle faisait partie de la vie quotidienne de ces populations, mais surtout parce que le peuple élu se rappelait que Moïse, David en particulier, avaient exercé le métier de pasteur avant d'être les chefs du peuple. Mais ces grands personnages dont le peuple vénérait la mémoire n'étaient que la figure, la préparation du bon pasteur qui allait venir, notre Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient d'ailleurs annoncé, par exemple, Ézéchiel. Mes brebis étaient dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Je viendrai moi-même chercher mes brebis. Je les ferai paître et je les ferai reposer moi-même. Cette réalité du bon pasteur est d'ailleurs assez mystérieuse. Notre Seigneur est un pasteur absolument unique en son genre. Il nous dit lui-même dans l'Évangile qu'il est à la fois la porte du bercail, le pasteur et le pâturage. Notre Seigneur est les trois à la fois. Notre Seigneur est la porte du bercail. Je suis la porte, dit-il. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et trouvera des pâturages. Notre Seigneur est la porte parce que la première étape à franchir pour entrer dans le bercail, c'est de croire en lui. Et notons bien que notre Seigneur dit « Je suis la porte ». Il ne dit pas « Je suis une porte ». Il y en a d'autres. « Je suis la porte ». Tenez fermement à cette vérité que le bercail du Christ est l'Église catholique, dit saint Augustin. Celui qui veut y entrer doit entrer par la porte, c'est-à-dire confesser le vrai Christ, c'est-à-dire avoir la foi catholique. Pour être sauvé, il faut appartenir au troupeau dont notre Seigneur est le pasteur, et pour appartenir à ce troupeau, il faut accepter le don de la foi. L'œcuménisme actuel finit par faire croire à nos contemporains que toutes les religions peuvent sauver. Il faut faire attention parce que c'est un dogme de foi qu'on ne peut pas se sauver en dehors de l'Église. C'est un dogme de foi. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et l'Église, elle est Jésus-Christ continué. Elle est le corps mystique du Christ. Elle est la seule à être le corps du Christ, le corps mystique du Christ, donc on ne peut pas se sauver en dehors d'elle, puisque le Christ est le seul sauveur. Alors nous appartenons au corps de l'Église par notre baptême. Il peut y en avoir qui appartiennent à l'Église, qui appartiennent à ce que l'on dit l'âme de l'Église. C'est la situation de ceux qui n'ont pas été évangélisés, qui se trouvent sans faute de leur part dans une autre religion, sans la pratiquer vraiment, mais obéissant plutôt aux lumières intérieures surnaturelles que Dieu leur donne pour être sauvés, et obéissant aux grâces qui leur permettent de suivre la loi naturelle et de faire le bien. Alors on dit que ces gens de bonne foi appartiennent à l'âme de l'Église. Ils sont sauvés par l'Église sans le savoir et malgré leur religion. Non pas par leur religion, mais malgré leur religion. Alors c'est possible, mais c'est quand même difficile et c'est même assez rare. Parce que la religion dans laquelle ils se trouvent leur prêche le contraire de la foi. Et elle viole de manière plus ou moins importante la loi naturelle. Il n'y a que l'Église qui prêche toute la loi naturelle. Et c'est pourquoi notre Seigneur, au jour de son ascension, a donné à ses apôtres le commandement d'évangéliser toutes les nations et de baptiser. Et c'est ce que l'Église n'a cessé de faire au cours des siècles, envoyant des missionnaires par toute la terre pour apporter aux âmes l'Église avec sa doctrine et ses sacrements. Aujourd'hui, depuis le dernier concile, le discours, c'est qu'il faut surtout bien pratiquer sa religion, quelle qu'elle soit. Mais notre Seigneur n'a jamais dit une chose pareille. Depuis notre baptême, nous sommes donc dans la bergerie. Que va faire le bon pasteur à notre égard? Comment va-t-il prendre soin de nous? Notre Seigneur donne la réponse dans l'Évangile. Le bon pasteur connaît ses brebis, il les conduit et les guide. Enfin, il donne sa vie pour elles. Le bon pasteur connaît ses brebis. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent », dit-il. Et d'une connaissance extrêmement profonde, parce que notre Seigneur est notre Créateur, il nous connaît même mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et notre Seigneur va très loin quand il parle de cette connaissance qu'il a de nous. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais mon Père ». Donc notre Seigneur dit que cette connaissance qu'il a de nous est comparable à celle qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Ce qui veut dire que les brebis que nous sommes sont appelées à entrer dans l'intimité de la Sainte Trinité. Et justement, comme la vie de la Sainte Trinité est une vie d'amour entre trois personnes, eh bien la connaissance dont il s'agit ici n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance d'amour, dit saint Thomas d'Aquin. De la même manière que Dieu le Père aime son Fils en qui il se reconnaît, et que Dieu le Fils aime ce Père qui l'engendre de toute éternité, eh bien le bon pasteur aime ceux qu'il est venu arracher aux démons et aux péchés, pour les introduire dans la vie d'amour et de bonheur de la Sainte Trinité. Car c'est le but et tout se terminera là. La conséquence de cet amour, c'est que le bon pasteur conduit et guide ses brebis. Parce que le chemin pour aller au ciel n'est pas un chemin facile, sur terre il y a beaucoup d'obstacles. Dans les montagnes, au petit matin, le pasteur ouvre la porte de la bergerie pour conduire ses brebis au pâturage. Il marche devant elles et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. La qualité que doit développer ici la brebis, c'est une docilité confiante à la volonté du bon pasteur, quelle qu'elle soit. Parfois, dans notre vie, notre Seigneur nous fait passer par des chemins qui peuvent être déconcertants à vue humaine, on ne comprend plus rien. C'est l'obscurité, le tunnel. Eh bien, c'est que pour atteindre certains pâturages élevés, il faut parfois emprunter des chemins rocailleux, difficiles, sinon on n'arrivera pas à ces pâturages élevés. Alors il faut faire confiance au bon pasteur, il faut continuer à marcher, c'est-à-dire continuer à faire son devoir chaque jour, quoi qu'il en coûte, persuadé que le bon pasteur sait ce qu'il fait et ce qu'il permet. Et un jour, eh bien, nous sortirons du tunnel, ce sera la lumière. Alors il peut arriver que dans cette marche aussi vers les pâturages du ciel, une brebis manque de confiance et elle s'égare. Elle va aller brouter un peu d'herbe là où il ne faut pas et puis elle se quitte le chemin et puis elle se perd et puis voilà, elle tombe dans les ronces. Alors ici encore, la sollicitude du bon pasteur ne fait jamais défaut. Écoutons ce que dit notre Seigneur, parlant de lui-même. Le bon pasteur est venu sauver ce qui était perdu. Si l'une de ses brebis s'égare dans le péché, il laisse les autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et s'il arrive qu'il la trouve, elle lui cause plus de joie que celles qui ne se sont point égarées. Les premiers chrétiens d'ailleurs ont aimé représenter dans les catacombes de Rome le bon pasteur portant sur ses épaules la brebis qu'il est venu rechercher. C'est une belle image. Le bon pasteur connaît et aime ses brebis, il les guide et les conduit. Enfin, le bon pasteur donne sa vie pour elles. Les pasteurs de cette terre gardent les brebis pour un jour les tuer et les manger. Le bon pasteur fait l'inverse. C'est pourquoi il est unique. Il a donné sa vie pour ses brebis en mourant sur la croix et il se fait manger par elles. C'est la Sainte Eucharistie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Notre Seigneur est donc non seulement la porte du bercail et le pasteur, il est aussi le pâturage. L'évangile d'aujourd'hui se termine sur une note missionnaire. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Notre Seigneur invite ici son Église à redoubler son action missionnaire. Et c'est pourquoi en ce dimanche, nous sommes d'abord invités à prier pour les vocations. Il y a tant d'âmes à faire rentrer dans le bercail aujourd'hui, tant d'âmes qui se perdent, et si peu de prêtres pour y travailler, si peu de religieux et de religieuses pour seconder le travail des prêtres par leur apostolat, par leurs prières et leurs sacrifices. Prions pour les vocations au cours de cette messe. Nous sommes aussi invités à prier pour tous les supérieurs, parce que les supérieurs, dans le plan de Dieu, participent à l'office de pasteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit la hiérarchie de l'Église, bien sûr, à tous les niveaux, mais aussi les chefs temporels, mais aussi les chefs de famille. Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. La crise actuelle est d'abord une crise des autorités, à tous les niveaux, spirituels et temporels. Toute autorité vient de Dieu, dit saint Paul. Lorsqu'une autorité, quelle qu'elle soit, cesse d'être le représentant de Dieu auprès des hommes, non seulement elle perd son fondement, mais c'est la division, la confusion, l'anarchie. Et sur le plan temporel, cela finit par la dictature, comme celle qui essaye de se mettre en place aujourd'hui dans le monde. Mais le plus grave pour le monde entier, c'est lorsque c'est l'autorité spirituelle elle-même qui vient à défaillir. Alors il n'y a plus aucune lumière, aucune référence, et le monde va à la dérive. La crise dans le monde n'en serait pas à ce point, les ennemis de notre Seigneur n'auraient pas autant de pouvoir s'il y avait un Saint-Pie-X à Rome et si les évêques étaient des confesseurs de la foi à hauteur d'un cardinal Pie ou d'un Monseigneur Lefebvre. En ce dimanche du bon pasteur, c'est donc spécialement pour la hiérarchie de l'Église qu'il nous faut prier afin qu'elle redevienne la lumière qui éclaire le monde. Demandons cette grâce au cours de cette messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.